va, on démarre.
Il n'y a jamais de loi favorable parce qu'il faut toujours au moins sauver l'honneur de la pensée, de la politique, et que donc, même quand tout est perdu, l'honneur n'est jamais perdu, qu'il y a donc de ce point de vue-là toujours des raisons de tenir bon.
Intellectuel et sans pouvoir, et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir.
The only thing which can help us, I think, is really to réfléchir. But I would say not thinking and not in a pas réfléchir, c'est plus dangereux encore.
Mounier était un homme qui participait tout à fait aux débats et aux affrontements du monde.
Bienvenue dans À plusieurs voix, le podcast de la revue Esprit qui fait dialoguer ses textes d'hier avec ses auteurs et autrices d'aujourd'hui pour une conversation au présent sur la vie des idées. Dans cet épisode, Véronique Naumgrapp, anthropologue, choisit un texte d'Amartya Sen, publié en 1991, et nous parle des femmes, d'espérance de vie et d'émancipation.
Bonjour. Alors, je viens chercher le numéro d'Esprit de septembre 91. Et donc là, je cherche l'article d'Amartya Sen sur le déficit des femmes, de présence des femmes dans le monde. Et je le trouve d'ailleurs. Alors, pourquoi un déficit de plus de 100 millions de femmes? Voilà, page 42. C'est l'article que je voulais retrouver.
Pour rendre compte du mépris dont les femmes sont victimes, deux explications simplistes ont souvent été présentées ou, plus souvent, implicitement admises. La première met l'accent sur les différences culturelles entre l'Est et l'Ouest ou entre l'Occident et l'Orient, en affirmant que la civilisation occidentale est moins sexiste que la civilisation orientale. La deuxième explication insiste sur les différents niveaux du développement économique, considère l'inégalité d'alimentation et de soins médicaux comme un trait du sous-développement, comme une caractéristique des économies pauvres.
Le titre « Pourquoi un déficit de plus de 100 millions de femmes ?» C'est incroyable comme question. Avait-elle été posée avant ? Elle avait sans doute été posée avant de façon différente. C'est-à-dire pourquoi cette surmortalité des femmes, par exemple au moment des naissances, sous l'Ancien Régime, au moment de l'accouchement, surmortalité extrême dont on a beaucoup de signes et de faits. Pourquoi les femmes disparaissent du paysage social et politique de certaines situations sans qu'on puisse néanmoins dire si elles sont en déficit ou pas? Et pourquoi Amartya Sen peut poser cette question, lui, d'une façon ni politique, ni morale, ni même de description grandiose et négative d'un paysage global? C'est parce qu'il part, en tant qu'économiste, de faits quantitatifs avérés statistiques, dont le premier est la mortalité à tous les âges de la vie de l'un ou l'autre sexe. D'une façon assez consensuelle, on constate que lorsque les conditions d'égalité sont réunies, qui sont très sociales et très concrètes, et pas seulement politiques, les femmes sont un peu plus nombreuses à la naissance et un peu plus nombreuses en fin de vie, en règle générale, quel que soit leur statut dans la société, au plan de la culture ou de la religion, par exemple. Or, lui constate, en étudiant cette mortalité à tous les âges que le terme de sex ratio donne, c'est-à-dire c'est une chose quantitative, sérieuse, il montre qu'il y a pour un immense tiers du monde, si ce n'est la moitié, et de façon très hétérogène et complexe, il y a un sex ratio stupéfiant, il y a moins de femmes que d'hommes parce qu'elles sont mortes à tous les âges de la vie. Et il part de ça pour redessiner un paysage mondial qui n'est pas seulement les riches de l'hémisphère nord et les pauvres de l'hémisphère sud. Lui, il dessine un autre paysage qui est des continents entiers où il manque des femmes, et pas une, pas deux, 100 millions. Et nous sommes en 91. Et on en est où maintenant? Amartya Sen est un grand économiste hindou, né en Inde, mais dont la vie intellectuelle, très tôt, l'a emmené dans les grandes universités anglaises et américaines, dans lesquelles, plus tard d'ailleurs, il enseignera. Son itinéraire montre, je dirais, l'espèce de simplicité lumineuse avec laquelle il envisage les dimensions globales de son objet. Ce que lui dit, et ce qui est central dans sa vie, c'est qu'à 9 ans, il a été témoin enfantin d'une immense famine dans le Punjab qui va faire 3 millions de morts. Mais, dit-il, après coup, il se rend compte, quand il se met à étudier l'affaire, que les subsides étaient là, la nourriture était là. Et cette horrible famine était absolument invisible dans les villes, les classes moyennes, tout était un peu plus cher, mais personne ne voyait rien, sauf un jour, un type extrêmement maigre, dans un état épouvantable, arrive devant la porte de sa maison, personne ne comprend. Et il s'est dit, mais comment c'est possible, elle n'aurait pas dû avoir lieu. Donc c'est une famine dont les causes étaient opaques. Et dont la visibilité était opaque. Pourquoi ? Parce que c'était les travailleurs ruraux invisibles, dont le statut n'était pas estimé et dont la visibilité était absente des élites, des sociétés qui pourtant ne veulent pas la famine, ils veulent le bien des gens, mais ces personnes-là n'étaient pas visibles. Leur vie n'est pas visible, donc leur mort n'est pas visible. Et il a commencé à travers cette expérience à entraîner un travail de toute une vie.
Au regard de l'énormité du problème de la survie des femmes dans de grandes parties de l'Asie et de l'Afrique, il est surprenant que ces discriminations n'aient pas reçu une attention suffisante. Le nombre des femmes disparues, par rapport au nombre de femmes qui pourraient vivre si elles recevaient les mêmes soins que les hommes, est considérable. Bien plus d'une centaine de millions de femmes sont absentes pour la seule raison qu'elles sont méprisées par les hommes. Puisque cette situation doit être corrigée par une action politique, les raisons doivent en être mieux comprises. Ce problème est certainement un des plus importants et des plus méconnus auxquels le monde doit faire face aujourd'hui.
On constate d'ailleurs la façon limpide, très simple, très claire, dont Amartya Sen s'explique. Il pose des questions, il n'y a aucune sophistication rhétorique, on va droit au but. Et c'est, tout le monde peut lire son texte, alors qu'il s'agit d'un grand scientifique. Là, il nous ouvre sur la piste du comment il travaille. Donc sur la base de références absolument perçues comme les bases architecturales du raisonnement, c'est-à-dire des références précise, pointue et très solide, très robuste. Et avec cette base étayée, extrêmement robuste, il construit un raisonnement logique, très simple, de cette logique si A est B, si A alors non B. C'était une logique fondée sur la comparaison intelligente et sur l'explicitation de traits très pertinents. Il déconstruit immédiatement ce qu'il vient de dire pour voir le contre-exemple en permanence. Alors, exemple, pour ce cas-là, la surmortalité des femmes à tous les âges. Serait-ce, puisqu'il y a cette opposition apparemment de loin, Occident et univers moins favorisé sur la planète, est-ce que les conditions économiques de revenus par tête d'habitant seraient centrales ? Réponse, en un sens, nous savons que dès qu'il y a une hausse du niveau de vie dans une population donnée, il y a baisse de la natalité, c'est constaté. Partout. Et qui dit baisse de la natalité, dit moins d'enfants pour les femmes, dit baisse de la mortalité en couche, baisse de la périnatalité, de périmortalité autour de la naissance, et donc baisse de la mortalité des femmes. Oui, mais ça ne suffit pas, puisqu'il y a les contre-exemples. Autre grande explication qui semble si évidente, ah mais oui, mais dans ces pays, la femme est méprisée, ça n'est pas comme en Occident, etc. Donc cette hypothèse-là serait, guillemets, culturelle. Et cette hypothèse, évidemment, il y a des sociétés, des traditions qui enferment les femmes dans des situations telles que, politiquement, on ne voit pas comment elles peuvent survivre, donc elles doivent sans doute mourir plus à tous les âges, et ça devrait nous suffire comme explication. Non, il y a des contre-exemples, il y a des situations où les femmes ne constatent pas cette mortalité à tous les âges, en fonction uniquement du critère culturel. Quand je mets culture, je dis religion, tradition, valeurs communes dans une société donnée, etc., etc. Culture, puis profondément de la culture au regard de la perception du pouvoir, que sais-je, de la perception de la différence entre le jour et la nuit, entre le soleil et la lune. Je prends culture dans son sens dense de l'anthropologue. Du coup, il est obligé de dire « arrêtons les grands ensembles ». Il dit « telle et telle et telle contre-exemple nous montre qu'il faut des paramètres plus spécifiques ». Il constate que dans de nombreux cas donnés régionaux, on les a descendus à la région, eh bien, le paramètre qui semble toujours corrélé à une baisse de la mortalité des femmes, c'est le travail salarié rémunéré en dehors du foyer. Et on voit bien que dans le cadre d'études démographiques globales, jamais on n'y aurait pensé, puisque l'homme, lui, qui est l'unique sujet de la pensée de l'OMS avant, au milieu du XXe siècle, il a toujours accès au travail en dehors de la famille. C'est même sa définition sociale. Donc, le travail, il fallait y penser, le travail rémunéré des femmes en dehors de la famille, qui entraîne, et c'est là où il est très fort, quelle que soit la culture, quand elle rentre, si elle peut l'exercer, ça suppose un accès à l'éducation, à la formation. Et pourquoi on l'a envoyée à l'école ou pas? Ça suppose, quand elle rentre, comme elle est forte de cet argent qu'elle a gagné, d'une espèce d'estime au sein même de la famille, il arrive à poser la question des liens d'estime à l'intérieur de la famille, indépendamment des liens affectif à l'intérieur de la famille qui existe même dans les cas de stigmatisation des femmes. C'est-à-dire qu'on est dans des situations où parfois l'homme aime sa femme, mais il pense qu'elle est tellement nulle en tant que femme qu'il n'écoute même pas ce qu'elle dit. Donc ce qu'elle dit, on peut très bien aimer et sous-estimer. Moi, je trouve ça très... Il arrive à l'espace familial, à la possibilité du regard des hommes sur les femmes de leur famille, à la possibilité de le décrire. Et là, on voit que le mot estime ou mépris prend une valeur qui n'est pas seulement morale ou romanesque ou en termes narratifs, mais qui est que ça va jouer de façon non-verbale dans « on envoie le garçon à l'école et pas la fille ». On donne à manger au garçon la bonne nourriture et pas la fille. Si elle est malade, on attend plus longtemps. Si vraiment elle crève, on voit ce qu'on fait. Etc, etc. Ça entraîne toute une série de conduites. C'est-à-dire que là, le mot estime, il nous l'a revisité, il nous l'a fait changer de registre pour le rendre actif dans les choix de conduite, de décision à l'intérieur de la famille concernant, par exemple, des choix différentiels entre petits garçons et petites filles. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Comment on choisit leur possibilité d'aller ou non dans tel ou tel lieu social? On aurait tendance parfois soit à surestimer la dimension purement économique, c'est parce qu'ils sont pauvres que les femmes meurent, ou bien de l'autre côté, c'est parce qu'elles sont stigmatisées traditionnellement, culturellement, qu'elles meurent. En réalité, il arrive à autre chose. On se rapproche, on passe du macro, des facteurs, des paramètres qu'il met en scène, très solides. Là, l'ethnologue rencontre Amartya Sen. Là, ils sont coude à coude. Et ils se posent la question, comment vivent les gens? Parce qu'ils disent... Mais qu'est-ce qu'ils font réellement? Comment se rapprocher de ça? C'est ça la question. Et tout à coup, on s'aperçoit que dans la famille, celle qui rentre avec le pécule parce qu'elle a pu avoir un travail à l'extérieur de la famille, ça change tout le statut en termes d'estime ou de mépris qu'elle a dans la famille, indépendamment de la culture régnante traditionnelle dans cette famille. Ce texte est important pour moi pour plusieurs raisons. D'une part, il touche du doigt, si j'ose dire, du doigt épistémologique, un immense champ de questions qu'on pourrait comparer à une espèce, si c'était un orchestre, ce serait des basses harmoniques de fond qui baignent tous les paysages sociaux et historiques, qui est le champ de l'inégalité. Et quel est le champ de l'inégalité? Et finalement, c'est Condorcet, c'est Benjamin Constant aussi, quand il parle de l'aisance. Ce champ d'inégalité, c'est la naissance. C'est-à-dire, autant la mort, à son dernier souffle, égalise les faibles et les puissants, et le tyran aussi va mourir, au dernier souffle, j'ai dit. Autant la naissance épingle l'être humain, c'est sur sa carte d'identité actuelle, il l'épingle comme un pauvre papillon épinglé à un lieu, à un milieu et à une date. Et à ce moment-là, eh bien voilà, tout explose le tragique de tout le social. C'est-à-dire, si vous naissez petite fille en Afghanistan en 2015 et maintenant on est en 2022, vous avez 6 ans dans une famille pauvre, c'est une catastrophe, c'est une tragédie atroce. Et si vous naissez un garçon beau et fort dans une famille privilégiée et cultivée d'un endroit de la planète où la vie est possible, eh bien c'est un stigmate positif, c'est-à-dire qu'on pense toujours les stigmates négatifs qui ont des effets horribles, mais le stigmate positif, c'est que alors toutes les chances, toutes les fées sont autour de votre berceau. Et là, Amartya Sen ne va pas du tout être dans l'idéologie, il va faire un changement de registre du mot liberté qui va lentement déplacer du politique au social et qui va ramener autour du corps humain, et je dirais à l'intérieur du corps humain et du regard humain, au fond des yeux humains, qui regarde ce qui l'entoure et qui dit « qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux traverser ce parc ? Non, pour toi c'est interdit. Est-ce que je peux m'acheter cette chose merveilleuse ? Ah non, t'es pauvre, c'est interdit. » C'est-à-dire que la liberté que nous, on écrirait avec notre sang sur un mur, avec un poète, là, ça devient une chose absolument vitale et concrète qui est, une fois que je suis née, quel est le champ des possibles autour de mon corps ? Et selon que je suis un homme, une femme, pauvre, riche, ce champ est extrêmement différencié. Et à ce point, comment dire, Amartya Sen n'en parle jamais comme ça, ça c'est moi, mais c'est la question infernale de l'injustice au moment même de la naissance, de cette injustice et de ce bruit de fond de l'injustice systémique liée à l'inégalité structurelle des sociétés humaines.
Malgré leur plausibilité apparente, ni l'opposition entre l'Est et l'Ouest, ni la simple hypothèse de la détérioration de la condition féminine, pensée comme une caractéristique du sous-développement économique, ne nous donne une explication satisfaisante de la géographie des préjudices que subissent les femmes dans un contexte social qui devrait leur permettre de survivre.
L'apport d'Amartya Sen, sans doute entre plusieurs auteurs aussi qui vont dans son sens, je pense que la discipline de l'économie a subi plusieurs révolutions, dont lui a été un des agents, je pense. Mais même quand on voit les travaux d'Esther Duflo, quand on voit les travaux de Piketty, et les changements de critères internationaux pour l'OMS, pour l'ONU, de définir le bien-être d'une population avec des critères qu'on puisse mesurer, ça c'est la chose très difficile, mais la chose, je dirais, démonstrative, c'est-à-dire que c'est ce qui donne un raisonnement, une fois qu'il est étayé par tous ces chiffres, sa force de démonstration, eh bien, il me semble que la problématique d'Amartya Sen n'intéresse pas seulement les économistes, mais intéresse toute la pensée sociale et professionnelle qui travaille sur l'idée du progrès, mais du progrès en sens du bien-être. Et on va s'arrêter à ce mot « bien-être ». Et j'aime beaucoup les textes de Benjamin Constant dans le Cahier Rouge sur l'aisance. Qu'est-ce que veut le peuple ? Pas la richesse démesurée du tyran, pas le pouvoir, etc. L'aisance, et ce mot très joli, montre bien cette frontière entre quand même une vie minimum confortable matériellement, que chaque geste, la pauvreté, la misère, c'est que chaque geste du quotidien, trouver l'eau, se laver, manger, est infernal. J'ai connu un médecin qui travaillait dans des favelas du Nord-Est, tous les jours de sa vie, le père de famille faisait sortir toute la famille pour déféquer sur un journal tout seul, qui pliait, qu'il allait jeter après les autres rentrées. Je veux dire, c'est des petits détails, mais il faut savoir que la pauvreté, c'est que la vie du corps, le corps se met à hurler, les objets sont hostiles, tout blesse les pieds, tout blesse, on a soif, on a faim, on est mal, on est gêné et on est méprisé. Et donc, qu'est-ce que c'est infernal, si vous voulez. Et lui, le bien-être, l'aisance, vous voyez, d'autres pourraient nous dire, faites la révolution, montez au rideau. L'aisance, ça veut dire autour du corps, la paix du corps, un univers assez, comment dire, sans ronces, sans blessures physiques dans la journée, dans la semaine, qui permettent les libertés positives dont parle Amartya Sen en nous déplaçant le mot de liberté. C'est-à-dire, j'ouvre la fenêtre, j'ouvre la porte, je parle aux enfants, qu'est-ce qui est possible de faire ou de ne pas faire ? Le champ des libertés. Et donc, vous voyez que le concept d'aisance est lié indissolublement au sens de la vie. Vous voyez, on n'est plus du tout dans une morale qui dit les choses matérielles sont vulgaires et les choses spirituelles sont nobles. Non, la vie spirituelle, mettre un bouquet, écouter de la musique est absolument lié à un minimum d'aisance. Et ce que je respecte dans Amartya Sen, c'est cette espèce de prise en compte de ces choses fondamentales est tellement évidente pour beaucoup de chercheurs contemporains. Et vous voyez, cette espèce de respect de la vie matérielle des gens sans la mépriser en disant ce n'est que la vulgaire vie matérielle, ça je trouve ça formidable et ça je trouve que ça devrait intéresser beaucoup plus que les économistes. Alors vous voyez, c'est un peu cette générosité sourde, sans doute non consciente, mariée à une intelligence juste et pas du tout narcissique d'Amartya Sen, qui fait qu'il fait exister son objet, comment vivent les gens, comment respecter ça, comment ils marchent, où vont-ils ? Et ça, je respecte ça.
Vous pouvez retrouver ce texte sur notre site internet esprit.presse.fr. C'était À plusieurs voix, un podcast de la revue Esprit, écrit et préparé par Anne Dugin et Rémi Baille, réalisé par Louise André. Lecture, Rémi Baille. Musique originale, Valentin Fernandez. Esprit est une revue indépendante. Pour la soutenir, abonnez-vous.